un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour. J'ai pas mis mon costume pour le mariage, Mireille, là.
Bah, t'as pas ton pape et le...
Non.
Alors, on a décidé, hein, puisqu'en souvent, au mois de mai, au mois de juin, il y a quand même beaucoup de mariages.
Beaucoup de mariages, voilà. Même s'ils sont en baisse.
Donc, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite émission sur le mariage. Voilà. Alors... Bon, on a un peu de parti pris, mais bon, voilà, c'est aussi pour la bonne cause, parce qu'on a des textes qui sont déterminants.
Absolument, vous allez voir, et entendre, plutôt.
Alors, on va tout d'abord, vous allez entendre tout d'abord une demande en mariage, ensuite la cérémonie de mariage, suivie du repas de noces, pour terminer avec la nuit de noces et le voyage de noces. Alors... Oui. Je ne sais pas trop dans quel sens le mettre, parce que des fois...
Non, mais de toute façon, vu les péripéties qui nous attendent...
Voilà. Alors, on a donc choisi quelques extraits, surtout donc en rapport avec d'autres mémoires. Enfin, moi, j'ai repris des choses, voilà, je me dis, ah, mais tiens, dans tel livre, il y a ça, il y a ça. Et puis, on va retrouver quelques écrivains français et anglais aussi. Et donc, nous allons commencer par une chanson. Hein. Voilà, on va faire des...
Chouette.
Voilà. Et donc, par un de nos grands poètes, chanteurs français. Donc, Georges Brassens, et qui donc a écrit une belle chanson qui s'appelle « La non-demande en mariage ». Voilà. Et bien, que j'ai pas trouvé, là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah merde, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je ne l'ai pas en fait.
Je peux citer quelque
voilà,
chose.
Bah oui, cite-nous. Hein, Brassens, parce que quand je ne sais pas, je ne l'ai pas mise dans
c'est
mon
pas
truc.
Grave, Mireille. Bon, on va se débrouiller avec ce que je vais
c'était
essayer de...
C'était pourtant une belle chanson.
Tout à fait, il y a la non-demande en mariage. Moi, j'ai relevé les quelques vers qui me plaisent le plus. C'est « À aucun prix, moi, je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite ». C'est hyper bien dit, hein.
il ne veut pas
mélanger
bien interprété.
Les sentiments, l'amour avec le pot-au-feu, évidemment. Et puis moi, j'ajouterais, comme on n'a pas l'enregistrement, qu'il y a la non-demande en mariage, mais il y a aussi la marche nuptiale de Brassens, même titre que Mendelssohn, alors beaucoup plus triste. Hein. La marche nuptiale, je rappelle juste que c'est un jeune homme qui assiste au mariage de ses parents. Et là aussi, j'ai relevé un passage où ça m'évoque plus un enterrement. Moi, je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Ça, c'est pas d'une gaieté. Hein, ça évoque pas forcément le mariage. Voilà, Brassens se venge peut-être du mariage auquel il n'a jamais adhéré personnellement, lui, mais bien qu'ayant la même compagne pendant très longtemps, la fameuse Püppchen, la poupée en français. Hein.
Voilà, bon, bah alors désolé pour le faux espoir que vous avez.
Oui, mais regarde, voilà,
mais Philippe a très bien.
J'ai supplé. Hein.
Voilà. Heureusement que tu es là. Hein.
Je pense bien.
Parce que moi, je ne l'aurais pas chanté. Alors, bah, du coup, on va sauter directement à la cérémonie de mariage. Et donc là, c'est un extrait de Jeanne Eyre, de Charlotte Brontë, qui. Bon, donc on a choisi le moment où elle va se marier, donc avec Rochester.
Rochester.
Alors, on va écouter ça.
Nous entrâmes dans l'humble temple silencieux. Le prêtre, en surplis blanc, nous attendait près du modeste autel. Tout se taisait. Seules deux ombres bougèrent dans un coin éloigné. J'avais bien deviné. Les inconnus étaient entrés discrètement avant nous et ils se tenaient maintenant près du caveau des Rochester, nous tournant le dos, regardant à travers la grille l'antique tombe de marbre marquée par le temps, où un ange à genoux veillait sur les restes de Damer Rochester, tué à Marston Moor à l'époque des guerres civiles, et d'Elisabeth, sa femme. Nous prîmes place devant la grille de l'hôtel. Entendant un pas discret derrière moi, je lançai un regard par-dessus mon épaule. Un des inconnus, de toute évidence un gentleman, s'approchait du chœur. La cérémonie commença. Après avoir expliqué ce qu'était l'objet du mariage, le pasteur avança d'un pas et, se penchant légèrement vers M. Rochester, continua.
Je vous demande solennellement, à l'un et à l'autre, comme vous devrez répondre au jour terrible du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront révélés. Si l'un de vous connaît une raison empêchant de vous unir légalement par le mariage, de le confesser maintenant. Car soyez bien assurés que ceux qui sont unis autrement que par l'autorisation de la parole de Dieu ne sont pas unis par Dieu et leur mariage n'est pas légal.
Il s'arrêta comme le veut la coutume. Quand une réponse vient-elle jamais briser le silence après que cette phrase a été prononcée? Sans doute pas une fois par siècle. Et le pasteur, qui n'avait pas levé les yeux de son livre et n'avait retenu son souffle qu'un instant, continuait. Sa main se tendait déjà vers M. Rochester, alors que ses lèvres s'ouvraient pour demander
« Acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse ?»
Quand une voix toute proche s'éleva distinctement.
« Ce mariage ne peut pas être célébré. Je déclare qu'il existe un empêchement. »
Le pasteur regarda celui qui avait parlé et resta muet. Le sacristain fit de même. M. Rochester bougea légèrement, comme si un tremblement de terre avait grondé sous ses pieds. Se carrant plus fermement sur ses jambes et ne tournant les yeux ni la tête, il dit
« Continuez !»
Un profond silence s'installa quand il eut prononcé ce mot d'un ton grave, à voix basse. Monsieur Wood dit bientôt
« Je ne peux pas continuer sans me renseigner sur ce qui vient d'être affirmé et avoir la preuve que c'est vrai ou faux. »
« La cérémonie est terminée. Je suis en mesure de prouver ce que j'avance. » Il existe un empêchement insurmontable à ce mariage.
Monsieur Rochester entendit cette déclaration, mais n'y prêta aucune attention. Il se tenait obstiné et raide, ne faisant aucun mouvement, sauf pour s'emparer de ma main. Que la sienne était brûlante, qu'elle me serrait fort. Et quand son front massif, pâle et ferme, avait un air de marbre en cet instant. Comme son œil brillait sous ce front, immobile, attentif, et toutefois furibond. Monsieur Wood avait l'air désemparé.
Quelle est la nature de cet empêchement? Peut-être pourra-t-on le surmonter, l'aplanir par une explication.
Ce n'est guère probable. J'ai déclaré qu'il était insurmontable et je parle en connaissance de cause.
Celui qui avait parlé s'avança et s'appuya sur la grille de l'hôtel. Il continua, articulant chaque mot distinctement, calmement, régulièrement, mais sans crier.
Cela consiste seulement dans l'existence d'un mariage antérieur. Monsieur Rochester a une épouse aujourd'hui en vie.
En entendant ces mots prononcés doucement, mes nerfs vibrèrent comme jamais le tonnerre ne les avait fait vibrer. Mon sang ressentit leur excitation subtile comme jamais il n'avait ressenti la glace ou le feu. Mais je restais maîtresse de moi et ne risquais pas de m'évanouir. Je regardais Monsieur Rochester. Je le forçais à me regarder. Tout son visage était de pierre, vidé de couleur. Son œil était tout à la fois l'étincelle et le silex. Il ne nia rien. Il donnait l'impression de vouloir défier l'univers. Sans un mot, sans un sourire, sans même sembler reconnaître en moi un être humain, il se contenta de m'entourer de son bras et de me serrer, immobile, contre lui. Il demanda à l'intrus.
« Qui êtes-vous ? » ?»«
Briggs, notaire à Londres. »
Et vous prétendez m'infliger une épouse.
Je prétends vous rappeler l'existence de votre épouse, monsieur, que la loi reconnaît, si vous ne le faites pas.
Faites-moi la grâce de me parler d'elle, de son nom, de ses parents, de sa résidence.
Certainement.
Monsieur Brix tira calmement un papier de sa poche et lut d'un ton nasillard vaguement officiel.
J'affirme et peux prouver que le 20 octobre de l'an de grâce,
la date remontait à 15 ans,
Edward Fairfax Rochester de Sandsfield Hall a épousé ma sœur, Bertha Antonetta Mason, fille de Jonas Mason, négociant, et d'Antoinetta, sa femme, créole en l'église de Spanish Town, Jamaïque. On trouvera le certificat de mariage dans le registre de cette église. Une copie se trouve aujourd'hui en ma possession, signée Richard Mason.
Cela, si le document est authentique, peut prouver que j'ai été marié. Mais cela n'apporte pas la preuve que la femme citée comme étant mon épouse est toujours en vie.
Elle était en vie il y a 3 mois.
Comment le savez-vous ?
J'ai un témoin, dont même vous, monsieur, ne pourrez refuser le témoignage.
Produisez-le, ou disparaissez en enfer.
Je commencerai par le produire. Il est ici, Mr. Mason. Ayez la bonté d'avancer.
En entendant ce nom, monsieur Rochester serra les dents. Il fut également saisi d'une sorte de violent frisson convulsif. Près de lui, comme je l'étais, je sentis les spasmes de fureur et de désespoir qui parcouraient son être. Le deuxième inconnu, qui était jusque-là resté en retrait, approcha. Un visage blafard apparut derrière l'épaule du notaire. Oui, c'était M. Mason en personne. M. Rochester se tourna et lui lança un regard furibond. Comme je l'ai souvent dit, il avait l'œil noir. Il y avait maintenant une lueur fauve et même injectée de sang dans ce regard sombre. Il avait le visage congestionné, la joue olivâtre et le front blême prenait une rougeur qui semblait monter d'un cœur en feu. Il bougea, leva son solide bras. Il aurait pu frapper Mason, le jeter à terre sur le sol de l'église, lui donner un coup impitoyable à lui couper le souffle. Mais Mason s'effaça et gémit plaintivement.
« Grand Dieu !»
Le dédain rendit son calme à M. Rochester. Sa fureur retomba comme une plante frappée par la rouille. Il se contenta de demander
« Qu'avez-vous à dire, vous ?»
Une réponse inaudible sortit des lèvres blêmes de Mason.
« Si vous êtes incapable de répondre distinctement, c'est que le diable est de la partie. Je l'exige une nouvelle fois. Qu'avez-vous à dire, vous ?»«
Monsieur, n'oubliez pas que vous êtes dans un lieu sacré. »
Puis s'adressant à Mason, il demanda doucement.
« Savez-vous, monsieur, si la femme de ce gentleman est toujours vivante ou pas ?»
Le notaire insista.
« Courage, parlez clairement. »
« Elle vit actuellement à Thornfield Hall. Je l'y ai vue en avril dernier, je suis son frère. »« À Thornfield Hall ?»« Impossible, il y a longtemps que je vis par ici, monsieur. Je n'ai jamais entendu parler d'une Mrs. Rochester à Thornfield Hall. »
Je vis un sourire sinistre déformer la lèvre de M. Rochester, qui marmonna.
« Non, par Dieu, j'ai pris soin que personne n'en entendit parler, ni d'elle sous ce nom. »
Il médita et pendant 10 minutes réfléchit en silence. Il prit une résolution et l'annonça.
« Assez ! Tout sortira d'un coup, comme la balle du canon d'un fusil. Wood, refermez votre livre et fermez votre surplis. John Green !» Il s'adressait au sacristain. « Quittez l'église, on ne célébrera pas de mariage aujourd'hui. »
L'homme obéit. Monsieur Rochester poursuivit, intrépide et téméraire.
« La bigamie est un vilain mot. J'avais pourtant l'intention de devenir bigame, mais le destin a contrecarré mes plans, ou la providence m'en a empêché. Peut-être cette dernière. Je ne veux guère plus qu'un démon à l'heure qu'il est. Et comme me le dirait mon pasteur ici présent, je mérite assurément les plus sévères punitions de Dieu, jusqu'au feu qui ne s'éteint jamais et au ver qui ne meurt point. Messieurs, mon plan est en miettes. Ce qu'affirment ce notaire et son client est vrai. J'ai été marié, et la femme à qui j'ai été marié vit. Vous dites que vous n'avez jamais entendu parler d'une Mrs. Rochester là-bas à la maison ? Wood, mais vous avez très certainement maintes fois prêté l'oreille au racontard qui faisait allusion à cette mystérieuse folle qui y était retenue sous bonne garde. Certains vous ont murmuré que c'est ma demi-sœur bâtarde, d'autres une maîtresse abandonnée. Je vous informe aujourd'hui que c'est ma femme, que j'ai épousée il y a 15 ans, une certaine Berthe Mason, la sœur de ce personnage déterminé qui, avec les membres tremblants et ses joues blêmes, vous montre maintenant quel cœur vaillant les hommes peuvent avoir. Courage, Dick, vous n'avez rien à craindre de moi. Je préférerais presque frapper une femme plutôt que vous. Bertha Mason est folle, et elle descend d'une famille de fous, idiots et fous furieux depuis 3 générations. Sa mère, la créole, était tout à la fois une folle et une ivrognesse, comme je l'ai découvert après avoir épousé la fille, car ils avaient bien gardé le secret jusque-là. Bertha, en fille soumise, imita sa mère sur l'un et l'autre point. J'avais une charmante compagne, pure, réfléchie, pudique. Vous pouvez imaginer que j'étais un homme heureux. J'ai connu des scènes inénarrables. Oh, j'ai eu des expériences célestes, si seulement vous les connaissiez. Mais je ne vous dois pas d'autres explications. Briggs, Wood, Mason, je vous invite tous à venir à la maison rencontrer la patiente de Mrs. Poole, ma femme. Vous verrez quel être on m'a fait épouser par ruse et vous jugerez si oui ou non je n'avais pas le droit de rompre ce contrat et de chercher la compassion auprès de quelqu'un qui au moins est humain, cette jeune fille. Elle croyait que tout était beau et légal et jamais elle n'a songé à être prise au piège d'un simulacre d'union avec un malheureux frustré déjà uni à une compagne abominable, folle et bestiale. Venez, vous tous, suivez-moi.
Me serrant toujours contre lui, il sortit de l'église, les 3 gentlemen suivirent. À la porte principale, nous trouvâmes la voiture.
Reconduisez-la à la remise, John. On n'en aura pas besoin aujourd'hui.
Quel éloge!
Bon, voilà, un mariage qui démarre mal. Enfin, pas de mariage.
Non, il n'y en a pas, là. Voilà.
Bon, allez, on vous rassure, hein, il y en aura un autre plus tard.
Oui, voilà. Oui, on va quand même pas être dans le négatif.
Voilà. Elle trouvera quand même le bonheur auprès de M. Rochester. Alors, Charlotte Brontë, elle est née le 21 avril 1816 à Southampton et elle est décédée en 1855 à Haworth, dans le côté de Bergen. Donc c'est une romancière et poétesse anglaise qui est la sœur aînée en fait d'Emily Brontë et d'Anne Brontë.
Hein. Les sœurs Brontë.
Voilà, les sœurs Brontë. Alors c'est la 3e fille du révérend Patrick Brontë au sein d'une famille de conditions modestes qui compte 6 enfants et elle bénéficie comme ses 4 sœurs et son frère de la présence d'un père qui a poussé ses études classiques jusqu'à l'université de Cambridge et n'hésite pas à leur transmettre sa culture et sa vision du monde. Alors, elle va connaître très tôt, alors qu'elle est toute petite, le deuil de sa mère, puis de ses 2 sœurs aînées, frappées par la tuberculose. Et malgré sa condition de femme et son absence de moyens financiers, elle va quand même réussir à publier ses poèmes, et ceux de ses sœurs d'ailleurs, sous des noms masculins, et surtout à publier son œuvre principale, Jeanne Eyre, qui est devenue un grand classique de la littérature anglaise et même mondiale, en ayant également laissé une empreinte importante dans l'histoire culturelle, en étant adaptée au cinéma à plusieurs reprises.
Oui, il y a eu...
En film, en série...
Exactement, il y a eu pas moins de 6 films principaux. Citons la version de 1996 de Franco Zeffirelli, avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle de Jeanne Eyre.
Voilà.
Et il y en a eu un plus récent encore.
Oui, il y a une série, là. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été visiter la maison des sœurs Brontë.
Oh, la chance.
Voilà. Et alors, c'est vrai que l'endroit est quand même assez sinistre. Oui. Donc, on comprend, voilà, quand...
L'ambiance des chez Rochester.
Quand on va les hauts de Hurlevent, voilà, on imagine bien comment ça s'est passé, voilà.
D'accord.
Donc, en général, ce qui suit la cérémonie, c'est le repas de noces.
Un bon repas,
voilà,
bien arrosé.
Un bon repas. Et donc là, on va vous proposer le repas d'Emma Bovary. Et donc, avec, on voit les gens qui arrivent, la description du repas, etc.
Très bien décrit, oui.
Donc, voilà, eh bien, on va vous laisser écouter ça.
Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures. Carriole à un cheval, charaban à deux roues, vieux cabriolet sans capote, tapissière à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes, où ils se tenaient debout en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secoués dur. Il en vint de 10 lieues, loin de Goderville, de Normanville et de Cany. On avait invité tous les parents des deux familles, on s'était raccommodé avec les amis brouillés, on avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt, la barrière s'ouvrait. C'était une carriole qui entrait. Galopant jusqu'à la première marche du perron, elle s'y arrêtait court et vidait son monde, qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montres en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture, ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle et qui leur découvraient le cou par derrière. Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient incommodés par leurs habits neufs. Beaucoup même étrennèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence, et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot, dans la robe blanche de sa première communion, rallongée pour la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, rougeaude, ahurie, les cheveux gras de pommade à la rose et ayant bien peur de salir ses gants. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Suivant leur position sociale différente, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes, bons habits entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Redingotes à grande basque flottant au vent, à collet cylindrique, à poches larges comme des sacs. Veste de gros drap qui accompagnait ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière. Habit-veste très court, ayant dans le dos deux boutons rapprochés comme une paire d'yeux, et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Quelques-uns encore, mais ceux-là bien sûr devaient dîner au bas bout de la table, portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis, et la taille attachée très bas par une ceinture cousue. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Tout le monde était tondu à neuf, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasés de près. Quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez, ou le long des mâchoires des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs, et qu'avait enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaque rose toutes ces grosses faces blanches épanouies. La mairie, se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s'y rendit à pied. Et l'on revint de même, une fois la cérémonie faite à l'église, le cortège d'abord uni comme une seule écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne, le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt, et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Le ménétrier allait en tête, avec son violon empanaché de ruban à la coquille. Les mariés venaient ensuite, les parents, les amis tout au hasard, et les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine, ou à se jouer entre eux, sans qu'on les vît. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer, et alors, délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec des petits dards, des chardons. Pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuf sur la tête et les parements de son habit noir lui couvrant les mains, jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary mère. Quant à Monsieur Bovary père, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. et en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archer, afin que les cordes grinçassent mieux. Et puis, il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon pour se bien marquer la mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partie de loin les petits oiseaux. C'était sous le hangar de la charreterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, 2 veaux à la casserole, 3 gigots et au milieu un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau de vie dans des carafes. Le cidre doux, en bouteille, poussait sa mousse épaisse autour des bouchons et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes, au moindre choc de la table, présentaient dessinés sur leur surface unie les chiffres des nouveaux époux, en arabesque de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Ifto pour les tourtes et les nougats, et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portiques, colonnades et statuettes, de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartier d'orange, et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers, avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat, dont les deux poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturels en guise de boule au sommet. Jusqu'au soir, on mangea. Quand on était trop fatigué d'être assis, on allait se promener dans les cours ou jouer une partie de bouchon dans la grange. Puis on revenait à table. Quelques-uns, vers la fin, s'y endormirent et ronflèrent. Mais au café, tout se ranima. Alors on entama des chansons, on fit des tours de force, on portait des poids, on passait sous son pouce, on essayait à soulever les charrettes sur ses épaules, on disait des gaudrioles, on embrassait les dames. Le soir, pour partir, les chevaux, gorgés d'avoine jusqu'aux naseaux, eurent du mal à entrer dans les brancards. Ils ruaient, se cabraient, les harnais se cassaient. Leur maître jurait ou riait, et toute la nuit, au clair de la lune, par les routes du pays, il y eut des carrioles emportées qui couraient au grand galop, bondissant dans les saignées, sautant par-dessus les maîtres de cailloux, s'accrochant au talus avec des femmes qui se penchaient en dehors de la portière pour saisir les guides. Ceux qui restèrent au berceau passèrent la nuit à boire dans la cuisine. Les enfants s'étaient endormis sous les bancs.
Voilà.
Quel observateur! Quel fin observateur!
Donc, Gustave Flaubert est donc un écrivain français né à Rouen le 12 décembre 1821 et il est mort à Croisée, lieu-dit de la commune de Canteleu, donc toujours à côté de Rouen. Hein. Alors, il est considéré comme Victor Hugo d'ailleurs, Stendhal, Balzac et Zola comme l'un des plus grands romanciers français du 19e siècle. Flaubert se distingue donc par sa conception du métier d'écrivain et la modernité de sa poétique romanesque. C'est un prosateur de premier plan de la seconde moitié du XIXe siècle. Il a marqué la littérature universelle par la profondeur de ses analyses psychologiques, son souci du réalisme, son regard lucide sur les comportements des individus et de la société. Et donc la force de son style se révèle dans les grands romans comme Madame Bovary, qui a été écrit en 1857, ou encore dans Salammbô, L'éducation sentimentale, ou le recueil de nouvelles Les Trois Contes.
Oui, alors là encore, Mireille, tu le sais, il y a eu plusieurs films qui ont été tournés, dont celui de Claude Chabrol, qu'on ne peut pas ne pas citer, de 1991, puisqu'il a été tourné dans notre secteur à Lyons-la-Forêt, avec dans le rôle titre Isabelle Huppert. Et je précise que Flaubert ne s'est jamais marié, comme on est sur le mariage.
Bah, vaut mieux être prudent.
Ah oui, voilà.
Donc, après le repas de noces, On va passer donc à la nuit de noces.
On va attaquer les choses sérieuses.
Voilà. Et donc là, pour ça, eh bien, on va vous passer un petit extrait donc, du chapitre 4 de « Comme neige au soleil » de William Boyd. Et donc l'extrait que l'on va entendre, il se situe au début du livre, avant le début de la guerre 14, alors que Gabriel et Caris viennent de se marier.
Juillet 1914, Trouville-sur-Mer, France.
Caris aimait Gabriel. De cela, elle était absolument certaine. Mais il ne faisait aucun doute non plus que Gabriel se conduisait tout à fait bizarrement. Pour l'instant, il se promenait sur le front de mer très fréquenté de Trouville, au-dessus des plages pleines de soleil et d'animation. Il était 11h du matin, ils étaient mariés depuis 24h, et elle était toujours vierge. Le voyage de Stackpole à Trouville n'avait été qu'une frustrante succession de contretemps. Cyril les avait bien conduits à Folkestone avec adresse et doigté, mais le bateau, pour une raison quelconque, avait levé l'ancre avec une heure de retard, ce qui leur avait fait rater leur train pour Paris. À Paris, ils avaient dû renoncer à leur projet de dîner et il s'était précipité de la gare du Nord à la gare Saint-Lazare pour attraper de justesse l'express de Trouville. Il avait fallu 4h30 avant d'atteindre la côte normande, et ils étaient arrivés à la gare de Trouville-Deauville à minuit passé. Caris avait été très déçu. Il y avait un bal chaque samedi soir au casino de Trouville, et Gabriel et elle avaient compté y assister ne fût-ce qu'une heure. Mais il y avait eu pire. À leur arrivée à l'hôtel d'Angleterre, on avait constaté la disparition d'une de leurs valises. Caris avait également noté, à l'approche de leur destination, une nervosité croissante dans l'attitude de Gabriel. Curieusement, la perte d'un bagage avait semblé détendre plutôt qu'exacerber la situation. Après l'avoir installé dans leur suite, Gabriel avait avalé un sandwich et bu un verre de lait avant de retourner à la gare pour essayer de tirer une explication des porteurs.
« À tout de suite, chérie. »
Caris s'était déshabillé, avait passé sa chemise de nuit, s'était mise au lit et avait attendu patiemment son retour. L'importance que semblait prendre cette valise égarée lui paraissait bien un peu étrange, mais Gabriel savait ce qu'il faisait. À son retour, une heure et demie plus tard, il avait la valise, mais Caris, épuisée par sa longue journée, dormait. Elle s'était réveillée au moment où il se mettait au lit. Son cœur avait battu soudain plus fort, saisi d'une vague panique à propos de ce qu'elle savait devoir se passer. Mais tout ce qu'avait fait Gabriel avait été de se pencher sur elle et de l'embrasser affectueusement sur la joue.
« J'ai la valise, Carrie, ma biquette. On dort un peu, non ? La lune de miel commence demain. »
Voilà tout ce qu'il avait dit avant de lui tourner le dos et de tirer les draps à lui. Il s'était endormi presque aussitôt, du moins à en croire sa respiration. Caris était resté éveillé un peu plus longtemps pour savourer l'insolite sensation de partager son lit avec un homme. Elle repensa vaguement à la matinée de son initiation à l'état de femme. Tante Bédélia l'avait, de manière solennelle et fort ambiguë, informé des obligations nuptiales de Gabriel. Gabriel avait raison, se rassura-t-elle une fois de plus. Il s'agissait d'une expérience trop importante, trop délicate pour s'y risquer, alors qu'ils étaient tous deux fatigués et un peu irritables. Mais au matin, Gabriel, levé avant elle, était debout, dehors sur le balcon de leur chambre.
« Réveillez-vous, Mrs. Cobb !»
avait-il lancé avec son grand sourire habituel dès qu'il l'avait vue se redresser dans le lit.
Il était bien trop beau pour dormir.
Il paraissait de fort bonne humeur et ne l'avait pas dérangée pendant qu'elle s'habillait dans la penderie. Elle avait choisi une blouse avec un décolleté en V dans la valise retrouvée, dont elle s'était dit qu'après tout, Gabriel avait eu bien raison de passer la moitié de la nuit à la chercher. Il aurait été fâcheux qu'elle n'ait point toutes ses toilettes avec elle pour sa première vraie journée en qualité de Mrs. Cobb. Sur le palier, devant leur chambre, alors qu'il s'apprêtait à descendre dans la salle à manger, Gabriel lui avait passé les bras autour des épaules et lui avait donné un baiser. Sa contagieuse bonne humeur avait dissipé tous les doutes qu'avaient inspiré à Caris les événements, ou plutôt l'absence d'événements, de la nuit précédente. Pendant le petit déjeuner, ils avaient ri et plaisanté au sujet des autres occupants de l'hôtel en essayant de les identifier. Un financier juif allemand, avait dit Gabriel Delin. Un millionnaire du Dakota, avait suggéré Caris. Un marchand de saucisses avec sa poule de luxe. Deux petits marquis. L'hôtel d'Angleterre, avait-il décidé d'un commun accord, était un endroit plutôt chic, même si la majorité des gens à la mode lui préféraient les Roches Noires, juste en face. Plus tard, il s'était assis un moment à la terrasse, Gabriel avec un Times vieux de 2 jours.
C'est drôle, quand je pense que nous n'étions pas encore mariés.
Il s'était penché pour lui prendre la main.
Il me semble que nous sommes mariés depuis des siècles.
Caris n'était pas très sûre de ce qu'il avait voulu dire. Personnellement, elle ne se sentait pas mariée du tout. Mais il l'avait dit avec tant de chaleur que cela sonnait comme l'ultime compliment. Les larmes lui étaient montées aux yeux. Si intense était son amour pour lui. Cher, merveilleux Gabriel. Elle avait baissé la tête pour feuilleter le magazine qu'elle tenait à la main. Elle avait entendu Gabriel lui lire un extrait du Times. Elle avait saisi au passage quelque chose à propos de l'Autriche et de la Russie, mais sans y prêter attention. Une tache de soleil s'avançait peu à peu sur la terrasse. Elle en surveillait le progrès en direction de ses pieds. Heureuse un instant d'être assise, tranquille, apparaissait avec son mari. Elle éprouvait un sentiment d'orgueil inhabituel à l'égard de son nouveau statut et pendant quelques minutes en avait savouré le contentement. Mais bientôt le soleil lui avait brûlé les pieds et elle avait commencé à ressentir de l'irritation à la vue de Gabriel totalement absorbé par son journal. Il aurait tout loisir de lire plus tard. Pourquoi y consacrer la première matinée de leur lune de miel ? Elle l'avait vu sortir une cigarette de son étui sans même lever les yeux, tâter ses poches distraitement pour y trouver des allumettes et l'allumer. Caris avait avalé sa salive, le goût de son café encore dans la bouche. Elle mourait d'envie de fumer. Mais Gabriel lui avait dit plus d'une fois qu'il n'approuvait point cela. Ridicule, stupide, vieux Gabriel. C'était la faute de sa famille. Il se montrait si vieux jeu parfois. Gabriel avait levé la tête.
« Tout va bien, chérie ?»«
Bien sûr. Le journal est si follement intéressant ?»«
En fait, oui. »
dit Gabriel sans déceler le reproche implicite.
« Avec le mariage et tout le reste, je n'ai pas eu l'occasion de me mettre au courant des nouvelles. »
Il avait froncé les sourcils.
« La situation est sérieuse. »
Puis il s'était replongé dans son journal.
« On se baigne ?»
avait suggéré Caris, inspiré par le soleil sur ses chevilles.
«
avait marmonné Gabriel, toujours dans sa lecture.
« Si tu veux. »«
Je vais chercher mon costard. »«
Chérie !»
avait fait Gabriel sur un ton de plaisant reproche au sujet de son argot. Dans sa chambre, Caris avait, en matière de rébellion, fumé une cigarette. Elle avait mis son costume de bain dans un sac coulissant, puis elle était redescendue. Elle s'était reproché son irritation. C'était aussi la lune de miel de Gabriel. Et si cela le rendait heureux de traînasser sur son journal après le petit déjeuner, eh bien libre à lui de faire exactement ce qui lui plaisait. À présent, il marchait le long du front de mer. Caris passa son bras sous celui de son mari et sentit la douillette sensation de l'amour et de sa propre chance la réenvahir. Il était si grand à côté d'elle. Elle lui arrivait à peine à l'épaule. Ils croisèrent un autre couple de l'hôtel et Gabriel souleva son canotier.
Ce soir-là, pendant qu'elle s'habillait pour le dîner, Caris repensa à la perfection de la journée. La baignade, le déjeuner, une visite au champ de course de Deauville pour assister à l'entraînement des chevaux, le thé à l'Eden Casino, puis le retour à l'hôtel et un bain délicieux. Une journée merveilleusement gaie. Gabriel avait ri et plaisanté et n'avait pas cessé de la prendre dans ses bras ou de lui voler des petits baisers dès qu'il se trouvait à l'abri des regards et de l'appeler « vieille Mrs. Cobb ». Elle vérifia son reflet dans son miroir. Elle avait relevé ses cheveux avec une frange basse sur le front et un large ruban de satin ivoire autour de la tête. Elle prit un peu de rouge sur le bout de son petit doigt et en frotta ses lèvres. Elle portait, pour la première fois, une robe de son trousseau, en velours noir, s'arrêtant aux chevilles et rebrodée de perles argent sur le corsage et les manches. Elle pénétra dans le salon de leur suite. Debout, en smoking, Gabriel fumait une cigarette.
« Mazette, ça par exemple, vous êtes sensationnel, Mrs. Cobb. J'en ai de la veine. »
Caris sourit un peu machinalement, elle s'en rendit compte. Elle souhaitait obscurément que Gabriel ne se sentît pas obligé de maintenir à tout prix sa gaieté et ses incessantes plaisanteries. Ce n'était pas nécessaire, il n'avait pas à rire et à marivauder tout le temps. Mais Gabriel persistait, il claqua des talons à la prussienne et lui offrit son bras.
« On va inspecter le menu ?»
Les gens levèrent la tête à leur entrée dans la salle à manger. Il y avait du monde, mais encore de la place. Août, qui coïncidait avec la saison des courses, était le mois le plus populaire. Trouville, avait-elle lu, devenait alors Paris sur mer. Durant le dîner, Gabrielle commanda du champagne. Elle remarqua qu'il en buvait considérablement plus qu'elle. En fait, à mesure que la soirée s'avançait, il semblait perdre de sa belle humeur. Il consacra beaucoup de temps à examiner la salle à manger, comme pour éviter de croiser son regard. Caris le comprenait. Elle éprouvait la même sensation au creux de la poitrine, une sorte d'oppression, comme une prémonition de panique. Pour les calmer, tous les deux, elle se mit à évoquer leur vie aux Indes au moment de leur rencontre. Aux Indes, tout avait revêtu une merveilleuse qualité onirique, difficile à maintenir une fois de retour en Angleterre. Peut-être était-ce dû à sa rencontre avec la curieuse famille de Gabriel, toutes ses sœurs et ses beaux-frères, cette piquée de tante Marie, son excentrique de mère, très très bizarre petit major, et aussi Félix le brillant, Félix dont Gabriel parlait si tendrement, mais qui lui avait paru... à elle, pour être franche, un odieux petit blanc-bec. Non, se dit-elle, ne critique pas, pas ce soir, surtout pas ce soir. C'était une famille ordinaire, semblable à celle de la plupart des gens. Seule la perfection de Gabriel en faisait ressortir les défauts. À ce point, Gabriel leva la tête et la surprit en train de lui sourire, ce qu'il fit en retour. Un peu artificiellement, pensa-t-elle.
Ça te dirait le casino, Carrie ?
Demanda-t-il en versant les dernières gouttes de champagne dans son verre.
« On va voir si on peut faire fortune. »
« Le casino, se dit-elle, mais que raconte-t-il »
« Je ne crois pas, Gabriel. Peut-être demain soir. »
« Bien, bien, bien. »
Ils passèrent dans le salon de l'hôtel où Gabriel commanda un cognac et un cigare. Quand il eut terminé, il suggéra une promenade, mais Caris se déroba à nouveau. Il s'offrit un second brandy avant qu'ils ne rejoignent leur chambre. Une fois là-haut, Caris sentit que la nervosité de Gabriel commençait à l'affecter sérieusement elle aussi. Assise devant sa coiffeuse dans son cabinet de toilette, ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle ôtait les épingles de ses cheveux. Dans la chambre, Gabriel se racla très fort la gorge et déclara qu'il se rendait dans la salle de bain au bout du couloir. Carrie se demanda un instant pourquoi il n'utilisait pas celle de leur suite, avant de se rendre compte qu'il s'agissait là d'un petit stratagème destiné à lui donner à elle une ou deux minutes de répit. Elle sentit sa gorge se serrer et une veine battre dans sa tempe. Elle enfila une chemise de nuit par-dessus ses sous-vêtements, sans passer les bras dans les emmanchures, et ôta ainsi à l'abri, comme elle l'avait fait toute sa vie, sa culotte bouffante et son corset. Curieusement, songea-t-elle soudain, elle n'avait jamais vu son corps nu dans un miroir. Elle rangea ses dessous, grimpa dans le lit et se coucha du côté gauche. C'était le côté sur lequel elle avait dormi la nuit précédente et elle ignorait si Gabriel avait une préférence quelconque. Deux minutes plus tard, Gabriel était de retour.
« Tu sais, je crois que l'aude est plus chaude là-bas »,
dit-il ingénument avant de filer dans le cabinet de toilette. Carrie était allongée, pétrifiée dans le grand lit.
« Gabriel chérie, comme je t'aime !»
Soudain, elle étendit le bras et éteignit la lampe de chevet. Puis elle s'avisa que le lustre central était encore allumé. Avait-elle le temps de l'éteindre avant que Gabriel ne revînt dans la pièce? L'éteindrait-il lui-même? Devrait-elle lui rappeler de le faire? Elle se glissa hors du lit et courut à la porte.
« Tout va bien, Carrie ?»
Elle pivota sur elle-même. Il était debout sur le seuil du cabinet de toilette dans un pyjama rayé bleu et vert. Dieu sait pourquoi, elle remarqua aussi qu'il avait des pantoufles. Elle laissa échapper un rire aigu et nerveux.
« J'ai pensé que je devrais fermer la porte à clé. »
Sa main se tendit vers la clé. Un carton, pendu à la poignée de la porte, disait « Prière de ne pas déranger ». « On devrait le mettre à l'extérieur », se dit-elle dans un moment de raison. Mais non, elle ne le pouvait pas, sous les yeux de Gabriel. Mais la lumière, que faire à propos de la lumière? Elle donna un tour de clé et se retourna. Elle surprit Gabriel se glissant en écrevisse, à petits pas silencieux vers le lit.
« Ah !»
dit-il absurdement, en essayant plus stupidement encore de mettre ses mains dans les poches inexistantes de son pyjama.
« Oui !»
Elle traversa vivement la pièce, plus vivement qu'elle ne l'aurait voulu, et rejoignit son côté de lit. Gabriel repartit vers la porte et éteignit la lumière.
« Oui !»
l'entendit-elle marmonner dans l'obscurité soudaine.
«
Carrie se mit au lit pour la seconde fois. Au moment où elle glissait ses jambes dans les draps, l'ourlet de sa chemise de nuit lui remonta au-dessus des genoux. Elle retint son réflexe de la tirer et, ce faisant, éprouva un petit frisson de plaisir illicite. Elle posa sa tête sur l'oreiller et allongea ses bras le long du corps. Son cœur battait rapidement, mais pas à grands coups. Bonne chose. La pièce était dans le noir. La femme de chambre avait fermé les volets, mais laissé les fenêtres ouvertes pour la fraîcheur. Elle attendit. Où était Gabriel?
Gabriel?
Oui.
Il n'avait pas bougé de la porte.
Tu vas bien?
J'attends simplement que mes yeux s'accoutument à l'obscurité. Il fait abominablement sombre ici, sans la lumière.
Oh, je vois. Oui, tu as raison, il fait noir.
Je crois que j'y vois un peu mieux maintenant.
Tant mieux.
Il s'approcha à tâtons. Elle sentit le lit s'affaisser lorsqu'il s'assit. Un ressort grinça.
« J'ôte juste mes pantoufles. »«
Ah bon ?»
Carrie se félicita de son calme. Elle savait exactement, du point de vue physiologique, ce qui allait lui arriver. Il était à son avis du devoir d'une femme de le savoir. Enfin, du moins, c'était ce que Tante Bedelia avait dit. Tante Bedelia pouvait être assez terrifiante à l'occasion, et elle avait, Carrie s'en rendait compte à présent, des idées avancées. Elle lui avait donné à lire des livres verbeux et ambigus et lui avait expliqué certaines choses. Mais sa tante, qui n'avait jamais été mariée, n'avait pas pu lui dire ce qu'elle ressentirait. Carrie était réellement dans le doute là-dessus. Éléonore avait insinué que c'était extrêmement déplaisant.
bien qu'elle n'ait pas eu plus que tant de Bédélia l'occasion de mettre ses théories à l'épreuve. Finalement, Gabrielle s'allongea dans le lit à côté d'elle.
« Hello !»
Elle sentit sa main saisir la sienne.
« Hello !»
répliqua-t-elle d'une voix soudain étranglée. Il se tourna vers elle, son nez lui toucha la joue. Les odeurs du dentifrice, du brandy et des cigares se mêlaient dans son haleine. Il jeta son bras droit n'importe comment à travers son corps, juste au-dessous des seins. Sa main gauche serrait toujours sa main droite. Il l'embrassa et Caris essaya de s'abandonner à l'humeur romantique dont elle aurait dû, à son sens, être sans tarder la proie. Au lieu de quoi, elle n'éprouva qu'un sentiment croissant de curiosité inquiète. Qu'allait faire maintenant Gabriel ? Y avait-il quelque chose, et quoi, qu'elle-même dut faire pour l'aider ? Soudain, ses lèvres toujours sur les siennes, Gabriel se hissa sur elle. Son poids lui coupa le souffle. Elle cessa de l'embrasser et tenta de respirer aussi doucement que possible. Le visage de Gabriel était maintenant enfoui dans son cou. Elle sentit qu'il bougeait et elle écarta docilement les jambes. L'ourlet de sa chemise de nuit se releva encore un peu plus sur ses cuisses. Elle fut affreusement consciente de son trajet sur sa peau. Elle sentit qu'il était tiré doucement plus haut. La main droite de Gabriel. La gauche était toujours solidement enlacée à la sienne. C'est alors que son cœur commença bruyamment à battre la chamade. L'ourlet de sa chemise de nuit se trouvait à présent au-dessus du pubis.
Gabriel chéri, Gabriel chéri.
Elle sentit le coton épais de son pyjama contre l'intérieur de ses cuisses. Il opéra quelques poussées en avant. Seigneur ! Maintenant, son membre en érection devait pénétrer son vagin. Elle avait vu des hommes nus en statue, en image, et même nageant dans des rivières. Brève vision d'une espèce de saucisse blanche pendant d'une touffe de poils sombres. Pour l'instant, elle sentait quelque chose de spongieux se presser intimement contre elle, mais, elle en était sûre, sans aucune pénétration d'aucune sorte. Le poids du corps entre ses cuisses était agréable, ainsi que la manière dont ses poussées saccadées la remuaient. Mais elle savait que cela aurait dû être dur, et il n'y avait là rien de dur, en tout cas à son avis. Et puis Gabriel roula sur le côté. Caris demeura immobile, figé d'étonnement.
« Tu vas bien ?»«
Comment ?»«
Tu vas bien ? Je ne t'ai pas heurté ?»«
Non. »«
Parfait, je suis contente. Tu comprends, je ne voulais pas trop te heurter la première fois. »
Non, je me sens vraiment bien, très bien.
Parfait.
Il l'embrassa sur la joue.
Bon dodo, Carrie,
dit la voix, gaie de soulagement.
On ira au château demain, d'accord?
Carrie se rallongea sur le lit. Ce soir, se dit-elle, dimanche 26 juillet 1914, moi, Carrie Cobb, née Lavery, je suis devenue femme.
Quelle épreuve!
Donc voilà, donc j'espère que cet extrait ne vous aura pas choqué.
Ah, bah on donne dans l'intime hein, quand ah, même. Voilà. Mais bon, ça reste assez sage quand même.
Alors, donc comme Neige au soleil de William Boyd, on peut lire sur la quatrième de couverture du livre: au pied du Kilimandjaro, en Afrique orientale, retentit l'écho lointain d'un attentat à Sarajevo. Colons, fermiers et militaires des deux bords se jettent avec ardeur dans la guerre, persuadés qu'elle ne durera pas plus de 2 mois. Il fait bien trop chaud pour se battre plus longtemps. Pourtant, 4 ans plus tard, 3 semaines après l'armistice en Europe, l'armée allemande d'Afrique n'a toujours pas capitulé, car personne ne lui a ordonné de le faire.
Bah oui, il n'avait même pas eu vent de l'armistice. Les communications à l'époque, ça n'allait pas très vite.
Et donc c'est un film, un livre, voilà, très, très bien. Enfin voilà, vous pouvez le lire, vous serez très content. Et d'ailleurs, Bernard Pivot avait, qui est disparu dernièrement, a dit de ce livre, si vous ne l'aimez pas, je vous rembourserai.
Voilà, c'est un gage de, de qualité.
Donc William Boyd, il est né en 1952 à Accra, au Ghana. Donc il est écrivain, journaliste, critique d'art britannique, écossais on peut dire, voilà. Oui. Il est connu pour ses romans, nouvelles, scénarios et pièces de théâtre, essais et chroniques diverses. Alors il a passé une grande partie de son enfance en Afrique, où son père était médecin spécialisé en maladies tropicales. Et puis après, il va aller à l'université de Glasgow. Et puis, il va finir à Oxford. Et donc, il va, son premier roman publié est Un Anglais sous les tropiques, qui est un livre très drôle aussi. Donc, si vous voulez le lire, qui a été récompensé hein, par des prix littéraires. Donc, voilà. Donc, on va... Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, tout ça est bien intéressant. Voilà. Je vois que il s'est inspiré finalement un peu de son vécu pour la nouvelle qu'on a lue précédemment.
Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit voyage de noces. Alors, un petit peu particulier, parce que là, voilà, on se trouve un jeune couple sans beaucoup de finances. Et donc, leur voyage de noces, eh bien, ils vont le faire en autobus autour de Paris. Et donc, c'est un texte de Louise de Villemorin.
Voyage de noces en autobus. J'ai connu, voilà quelques années, de jeunes mariés qui, n'étant pas riches, ont fait leur voyage de noces en autobus. Ils ont roulé dans Paris et tout autour de Paris. À chacune des portes de la ville, ils retrouvèrent des amis dont les voix devaient entraîner leur imagination si loin que leur voyage s'étendit par moments au-delà des frontières de la France. À la porte de Flandre, Rimbaud s'interrogeait. « Si mon mal se résigne, si j'ai jamais quel corps, choisirais-je le Nord ?» À Bercy et à la porte de Vincennes, où s'ouvrent les grandes chaussées de l'Est, Apollinaire les entraîna jusqu'au pays rhénan. Le mai, le joli mai, embarque sur le Rhin. Les dames regardaient du haut de la montagne. Que vous êtes jolie, mais la barque s'éloigne. À la porte d'Italie, Gérard de Nerval, s'adressant à la nostalgie, lui disait « Rends-moi le Posilippe et la mer d'Italie. » À la porte d'Orléans, ils entendirent deux voix. C'était Peggy, leur parlant de la Loire. 120 châteaux lui font une lutte courtoise. Plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais, ils en ont Valençay, Saint-Aignan et Langeais, Chenonceau et Chambord, Azay, Le Lude, Amboise. Et c'était Hugo qui leur parlait d'Espagne. Elle aime une fleur bleue d'Allemagne. Je fais chaque jour une lieue jusqu'à Caramanchel pour avoir de ses fleurs. J'en ai cherché partout, sans en trouver ailleurs. À la porte de Saint-Cloud, par où souvent on sort pour aller en Bretagne, Baudelaire leur a dit « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Quant à Verlaine, il rêvait à Auteuil. « Âme, te souvient-il, au fond du paradis, de la gare d'Auteuil et des trains de jadis, t'amenant chaque jour venu de la chapelle ?» Penché au balcon d'un autobus parisien, quel beau voyage nos amoureux ont fait avec leurs 4 sous. Conduits par les poètes, ils ont exploré les lointains sans, pour autant, dédaigner les proches horizons. La rondeur des places, l'étendue des marchés, l'énigme des carrefours, les boutiques, les jardins, les maisons et les foules, et la rue qui s'emplit, se vide et se dévide, comme le rêve et comme le destin.
Eh bien voilà, nous avons terminé notre... Oh là! Ça s'emballe.
Un joli petit voyage à Paris en compagnie des poètes. Toujours bon à prendre.
Donc, Louise de Villemorin, elle est une femme de lettres française qui est née en 1902 et elle est décédée en 1969. Elle était parfois surnommée Madame de, en référence à son roman à succès qui a été porté sur grand écran.
Oui, par Max Ophuls, un film sorti en 1953.
Voilà, exactement. Alors, bon, on va pas vous raconter toute sa vie, mais elle a été la compagne de, enfin, elle a été mariée, elle a eu des enfants, et elle a été copine aussi avec Coco Chanel, et dont elle va faire sortir les mémoires en 1957. Donc, elle voyage beaucoup. Et puis, donc, elle est amie avec Sadruddin Aga Khan. Elle fait la connaissance aussi du peintre Émile Chambon. Ensuite, elle va... elle est très amie avec...
Avec Malraux.
Avec Malraux, avec Poulenc, avec Paul Éluard, voilà, enfin, tout ça, elle est... Alors, elle travaille également comme scénariste et dialoguiste pour plusieurs longs-métrages, comme Les Amants de Louis Malle, ou La Française et l'Amour, pour le sketch de Jean Delannoy, ou encore dans Tof Tof de Georges Folgoas, etc. Voilà.
Donc, elle est de la famille des Graintiers, hein. les Graines Villemorin.
Ah
hein, c'est une, on peut donc dire qu'elle a... Une vraie graine d'écrivain. Voilà. Je ne pouvais pas la louper, celle-là.
Voilà, pour le mot de la fin, c'est parfait.
Et puis, voilà. Poulenc disait d'elle qu'elle était l'égale de Paul Éluard et de Max Jacob, carrément. Et puis, j'ai vu dans ta préparation d'émission, Mireille, qu'elle était un petit peu orientée sur les... Enfin, plus que les jeux de mots, hein, les jeux sur les... Les holorimes, c'est-à-dire, on en a déjà parlé ici dans cette émission, les phrases qu'on entend phonétiquement identiques, mm-hmm. et puis les palindromes, hein, les phrases qu'on peut lire d'un gauche-droite, droite-gauche. Hein. Alors j'en ai relevé quand même deux, je n'ai pas pu m'empêcher. Hein. au niveau des holorimes, voilà deux vers intéressants. Étonnamment monotone, hélas, est ton âme en mon automne. Hélas, c'est assez costaud. Et puis alors, les auditeurs vérifieront, hein, on peut le lire de droite à gauche, de gauche à droite. L'ami naturel, le rut animal. ça se lit dans les deux sens.
Pour conclure sur notre émission sur le mariage.
On conclut un peu grossièrement.
Voilà, bon, bah alors, à bientôt, alors.
Pour d'autres aventures, d'autres mariages, on n'est pas sûr.
Voilà, mais d'autres voyages, en tout cas.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.